Bonjour et bienvenue sur Les Ondes d'être flic, le podcast d'un policier à la rencontre d'autres policiers. Dans cette série, je vous amène découvrir l'histoire intime de ces flics que vous croisez en bas de chez vous à toute heure. Au micro d'Emmanuel, avec le soutien de la MGP, la Mutuelle des Forces de Sécurité, vous allez entendre ces policières et policiers, de tous grades, de tous horizons, celles et ceux que vous appelez au 17, celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Roubaix, mais pas au commissariat central. Nous sommes au manoir de l'école EDEC. Nous recevons aujourd'hui le commissaire général roubaisien, le commissaire Haroun. Bonjour commissaire.
Bonjour.
Je vais vous laisser vous présenter comme vous le souhaitez.
Donc moi je suis le commissaire général Abdelkader Haroun et je suis affecté au commissariat de Roubaix qui est une division depuis 2 ans et demi. Maintenant. Et j'avais déjà fait un premier séjour au commissariat de Roubaix en sortie d'école à l'époque, comme chef de la sûreté urbaine. Et aujourd'hui, je suis à Roubaix comme responsable de la division de Roubaix.
Pouvez-vous nous expliquer votre parcours dans la maison police au travers de faits marquants, des doutes, des étapes, des rencontres ?
D'une manière générale et pour faire très très bref, ma carrière elle a été divisée en deux parties. La première partie c'était des unités d'investigation, que ce soit la sûreté urbaine de Roubaix, de Lille ou la sûreté départementale. C'était pendant 15 ans à peu près, c'était des enquêtes de la police judiciaire. Alors, comme tout policier d'investigation, c'est effectivement des plus belles années, entre guillemets, de la police, si on prend en compte la satisfaction personnelle de démanteler des grands réseaux, des équipes de braqueurs qu'on en a pu actuellement, ou alors des affaires d'homicides qu'on a pu avoir sur l'ensemble du département. Alors, ça serait monopoliser le temps que d'évoquer toutes les affaires. Mais je pense que tous les policiers d'investigation ont éprouvé quand même une satisfaction au-delà du service public, une satisfaction de dérouler ces enquêtes au long cours qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, notamment dans le domaine des vols à main armée. On a très peu de faits de vols à main armée.
Vous avez dépassé outre-Atlantique cette frontière pour vous former aux scènes de crime. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette formation ?
Alors, donc effectivement, à un moment donné de ma carrière, donc j'étais en poste ici, donc dans le département du Nord. J'étais en unité d'investigation. J'étais responsable de la sûreté départementale du Nord. Et le préfet, c'était Jacques Franquet. Il recherchait un candidat pour un projet de formation financé par les Américains sur l'analyse comportementale. Et donc, ma candidature a été retenue et je suis parti effectivement aux États-Unis. Et j'ai fait un voyage sur pratiquement tous les États-Unis pour rencontrer des enquêteurs en charge des crimes en série. Et donc, ce n'était pas une étude théorique, hein, c'était des échanges avec les policiers du FBI, hein, puisque c'est eux qui sont chargés de ce type de crimes. Et donc, je suis allé à Washington, New York, j'ai fait le Texas et le Paso, j'ai fait le Mississippi, et ensuite j'étais dans l'Oregon pour aborder ces différentes techniques d'investigation et donc de l'analyse comportementale. Et donc, effectivement, j'ai été formé, ce qui ne veut pas dire que je suis meilleur qu'un autre, mais en tout cas, effectivement, j'ai été formé aux États-Unis sur cette thématique-là. L'analyse comportementale, ça signifie quoi ? Ça signifie que le comportement humain, il est prévisible dans une situation donnée. C'est-à-dire, en clair, c'est une technique, j'allais dire, moi, une technique cérébrale. C'est-à-dire qui vous amène à retracer une scène de crime alors que le criminel, vous ne l'avez pas vu. Alors, certains assimilent ça à des flashs, ce qui est complètement ridicule. Mais ça repose sur des critères qui sont scientifiques. Quand on dit que le comportement humain il est prévisible, ça signifie que dans une situation donnée, on a tous le même comportement. Par exemple, vous constatez que votre maison brûle, vous sortez. Ça, c'est valable dans 90% des cas. Dans 10% des cas, et c'est là où le raisonnement ne fonctionne pas, c'est ce qu'on appelle le criminel pathologique. C'est ce que les Américains appellent le criminel désorganisé, le psychotique. Et je me souviens d'une affaire où c'était effectivement, on a eu une maison qui brûlait, les pompiers faisaient sortir tout le monde, et puis il y en a un qui, il ouvre sa porte, on lui dit la maison brûle, il faut sortir, et il vous dit je suis chez moi, je fais ce que je veux, il claque la porte. Donc là, on a l'exemple des 10% qui font en sorte que le raisonnement ne s'applique pas. Par contre, concernant les techniques d'investigation sur le comportement humain qui est prévisible, j'allais dire, tous les officiers de police judiciaire aguerris, c'est-à-dire avec une grosse expérience et qui sont dans des unités d'enquête, pratiquent l'étude du comportement humain.
En août 2019, un film appelé « Roubaix, une lumière » d'Arnaud Desplechin est sorti. Vous, commissaire, comment décrivez-vous cette ville de l'intérieur ?
Alors c'est un paradoxe d'ailleurs de ce que je vais vous dire, mais quand on a une vision extérieure des choses, Roubaix fait peur. Parce qu'on assimile souvent Roubaix à des faits divers parfois excessifs. Et quand on est dans Roubaix, quand on vit dans la ville, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est une ville où on se sent bien, une ville qui attachante et surtout avec des gens qui sont différents des personnes que l'on peut rencontrer ailleurs, parce qu'on a des gens qui font l'objet ici, malheureusement, d'une grande pauvreté pour certains. Et donc, on a tout cet humanisme qui se dégage de ceux qui n'ont pas grand-chose. Et je pense effectivement que quand on n'a rien, on a son cœur qu'on essaie de livrer. Alors effectivement, la pauvreté entraîne, ça il faut le reconnaître également, une économie parallèle. Et moi, ce que je déplore le plus, c'est des jeunes qui sont désœuvrés et qui sont attirés par l'argent facile, c'est-à-dire les reventes de drogue, c'est ce qui pèse le plus. C'est tout ce qui est lié aux stupéfiants. Mais au demeurant, c'est pas ça Roubaix. Quand on la connaît, il faut savoir que vous avez les plus grandes entreprises, notamment des start-up, qui sont ici sur la place roubaixienne, notamment dans le secteur de ce qu'on appelle la pleine image, où vous avez des start-up avec plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des jeunes qui ont à peine 25-30 ans et qui ont développé des process qui sont valorisés à l'international. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe de Roubaix qui inquiète mais qui rassure aussi.
Justement, ceci m'amène à deux questions, toujours sur l'univers policier. Être commissaire général à Roubaix, mais aussi dans des circos assez compliqués comme dans lequel je viens, Sarcelles. C'est des circos aux 1000 visages. Qu'est-ce que cela implique au quotidien pour vous dans votre travail de commissaire général ?
Tout d'abord, ce que ça implique, c'est que c'est d'abord un travail d'équipe. Le commissaire général ou commissaire tout court à la tête d'une division, il n'est pas grand-chose. Donc ce qui est important, en tout cas moi je le conçois comme ça, c'est le travail d'équipe et l'investissement des policiers que je salue, et je ne manque pas une occasion de saluer les policiers roubaisiens et roubaisiennes, tout simplement parce que leur engagement, il est exceptionnel. Quand on a des promotions de sortie d'école, on doit avoir une centaine de policiers qui ont moins de 30 ans, c'est leur premier poste, c'est Roubaix. Je pense qu'il faut leur témoigner quand même tout notre respect. Ce n'est pas évident, quand on a 22, 23 ans, se retrouver ici, assister à des découvertes de cadavres. Moi, je me souviens d'une première intervention de jeunes, trois jeunes en police secours. Ils sont intervenus à Waterloo. Il y avait un monsieur qui avait découpé le visage d'une dame. Il l'avait découpé. Le visage était béant. J'imagine le traumatisme de ces trois collègues que j'ai reçus dans le bureau pour essayer d'échanger un peu avec eux, parce que je me dis, c'est pas humain à 23 ou 24 ans d'assister à ce genre de choses. Alors heureusement qu'il y a des prises en charge, on le fait automatiquement. Dès qu'il y a ce genre de difficultés, on les oriente vers le SSPO, le service qui va permettre une prise en charge psychologique des policiers. On essaie de les encadrer, mais objectivement, c'est compliqué pour eux. Alors, ça implique quoi quand on est à la tête d'une circo? Moi, je pense que c'est la disponibilité. On passe son temps, la journée, à gérer les imprévus. Après, on essaie de trouver du temps pour gérer le reste. Ici, je pense que c'est vraiment la ville où la notion de service public prend tout son sens. C'est-à-dire que vous avez affaire à des gens dont la principale préoccupation, c'est de comment la police peut nous aider. Alors que ce soit en termes de sécurité, mais également dans d'autres domaines. C'est-à-dire que les gens viennent au commissariat pour faire des demandes dans différents domaines, mais également, ils sont demandeurs de sécurité.
Et justement, on évoquait le côté commissaire. Vous, monsieur Haroun, d'origine modeste aussi, issu d'une grande fratrie, à quoi étiez-vous, prédestiné selon vous?
Alors, d'abord, j'étais prédestiné à rien du tout. Comme je vous disais, comme cela a pu être dit et écrit, moi, mon père était un supplétif de l'armée française, c'est-à-dire en clair, il était harki, on appelle ça d'une façon un peu triviale. Et il a combattu donc avec les troupes françaises. Et donc, et ensuite, en 1962, on nous a, enfin en tout cas à toute ma famille, on a appris qu'il fallait que la France allait partir. Alors j'utilise bien le terme « la France allait partir » parce qu'il n'était pas prévu qu'on soit rapatrié avec les troupes françaises. Et donc, heureusement qu'il y a certains militaires qui n'ont pas forcément respecté les ordres qui avaient été donnés. Et donc, ma famille a pu revenir en France. Voilà, donc en clair, en 48 heures, on abandonne les terres, on abandonne tous les affaires. Il y a une valise pour toute la fratrie. Donc, quand on arrive en France, la famille était parquée dans un ancien camp de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, qui est le camp de Rivesaltes. Voilà, ce sont des baraquements. Et donc, quand on se retrouve toute la fratrie dans des camps de concentration, je pense qu'il faut utiliser le terme, il n'y a pas d'ambition. Il y a le fait de vivre au jour le jour.
Mais ce métier de policier, comment est-il venu à vous ?
Effectivement, comme vous avez pu l'indiquer, en tout cas dans mes éléments de vie, on ne fait pas des perspectives de carrière. On se donne des chances et ensuite, on fait en sorte que l'on puisse, au jour le jour, envisager des choses. Voilà, c'est plutôt ça. Quand j'ai fait mes études de droit, je faisais des études de droit. Pour faire quoi ? C'était pas l'objectif. Parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire des conjectures, comme on dit actuellement, c'est-à-dire de se projeter. Je dois vous avouer que j'étais passionné par le droit, donc ça facilite les choses. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je m'oriente vers la police? C'était mon grand frère qui avait fait son service militaire et qui... Il est tombé sur un chef bienveillant, puisque c'est un chef qui avait été rapatrié de la guerre d'Algérie et qui savait que mon père avait combattu pour l'armée française. Et il a décidé d'aider mon frère en lui disant « Écoute, t'as pas de travail, mais je vais t'emmener voir les gendarmes et tu vas être pris comme gendarme. » Voilà. Donc il a passé un test, je suppose. Et donc il est devenu gendarme. Et donc il venait à la maison tous les week-ends. Et il nous racontait ses histoires de gendarmes, mais il enrobait beaucoup. C'était des histoires de gendarmes aménagées. C'est-à-dire qu'il nous racontait ses histoires un peu à la Pierre Belmar, pour lequel chaque semaine, il y avait un épisode supplémentaire du polar qu'il n'avait pas terminé la semaine d'avant. Voilà, c'était ça. Et je me suis dit, c'est pas mal comme boulot. Parce que j'étais effectivement intéressé par les enquêtes criminelles et c'était la série télévisée. Et je me suis dit, ça me plaît. Alors, heureusement qu'il a enrobé, parce que ça m'a permis de poursuivre des études en disant, je veux faire ça. Et donc, ensuite, quand j'avais eu m'ont terminé mon bac plus 5. Je voulais effectivement être gardien de la paix ou gendarme de base, parce que je voulais faire des enquêtes. Et heureusement, il y en a certains, quand j'ai déposé mon dossier, ils m'ont dit, écoutez, compte tenu du niveau d'études, il vaut mieux passer d'autres concours. Ce que j'ai fait, c'est comme ça que je suis rentré dans la police. Mais dans le cœur, j'aurais voulu être avocat d'affaires. J'ai fait la police parce que parce qu'il y avait ces enquêtes criminelles. En réalité, j'oscillais entre les deux. Mais dans le fond, j'aurais voulu être avocat d'affaires parce que le droit des affaires me passionnait. Mais comme j'ai pu l'indiquer, on n'avait pas d'argent. Et donc, mon père m'avait dit qu'il ne pouvait pas me financer un cabinet d'avocat. Donc, il m'a dit, il ne faut pas faire ça. Donc, je suis rentré dans la police. Et puis, effectivement, c'est un métier passionnant. Mais je n'exclus pas la retraite d'ici 7-8 ans de prendre une inscription au barreau. Tout à fait, pour, à titre symbolique, être avocat d'affaires.
Vous êtes passé de la réalité du terrain à la fiction médiatique. À quoi cela est-il dû ?
Alors, vous faites allusion probablement au film Roubaix et Lumière. Ce film Roubaix et Lumière, réalisé par Arnaud Desplechin, a fait l'objet d'une reprise intégrale d'un documentaire qui avait été réalisé par Mosco Bucco, que je salue d'ailleurs, qui est un très grand réalisateur et qui nous avait suivis au commissariat pendant à peu près 2 ans. Et il était en immersion totale. Et il avait intitulé son documentaire « Commissariat de Roubaix, affaires courantes ». Et il a très vite compris qu'il n'y a pas d'affaires courantes à Roubaix, ou plutôt, ce qui est extraordinaire ailleurs, c'est des affaires courantes à Roubaix. Et donc, il a suivi des groupes d'enquête et ce documentaire a été repris intégralement, y compris d'ailleurs les paroles, les échanges par Arnaud Desplechin, que je salue d'ailleurs parce qu'il a eu un regard particulier sur la ville de Roubaix. Et je sais qu'il y est très attaché. À cette occasion-là, le commissaire que je suis dans le film documentaire de Mosco Bucco est devenu le commissaire Roger Izem dans l'affaire Roubaix Une Lumière. Ce qui a attiré l'attention des médias, d'abord c'est le fait qu'il ait eu un César pour la réalisation du film, et ensuite c'est dans le fait que les affaires qui avaient été évoquées, c'était des affaires marquantes.
Je vais me permettre de vous appeler l'enfant du Nord. Vous êtes donc, les auditeurs l'auront compris, commissaire général, mais aussi haut fonctionnaire. Vous avez suscité un fort engouement médiatique grâce à votre travail notamment et votre réussite personnelle et professionnelle. Dépasser l'image du flic et être un modèle de réussite républicain, est-ce un sujet aisé pour vous à porter ?
Alors, la question de la réussite, de la fierté, tout ça, moi, je me sens pas trop concerné. Parce que des gens comme moi, dans la police nationale, il y en a des dizaines qui sont commissaires généraux. Et on leur pose pas la question de savoir à eux, est-ce que c'est une réussite. Pour eux, c'est normal qu'ils soient commissaires généraux, mais pour moi, ça doit être une réussite. Moi, je me situe pas du tout dans ce schéma-là, parce que je pense que la seule réussite, c'est d'avoir changé de monde, c'est-à-dire de passer du monde de ceux qui comptent pas à un monde où, effectivement, vous avez beaucoup d'égards. C'est pas une réussite. Moi, j'ai fait des études. Et la réussite, c'était d'avoir concilié des études universitaires avec rien, c'est-à-dire avec pas d'argent. C'est ça, la réussite. Mais ensuite, le fait qu'on soit commissaire général, qu'on soit... c'est l'administration qui reconnaît le travail qui est effectué. En tout cas, c'est comme ça. Et la réussite, c'est... c'est faire en sorte que l'on puisse à un moment donné porter un espoir vis-à-vis des jeunes et se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on vit dans la cité que notre avenir il est compromis. Voilà, donc si la réussite c'est pouvoir servir de modèle à des gens qui sont dans la même situation que nous, bah, moi je suis d'accord pour utiliser ce terme. Mais après, le fait qu'on ait réussi, qu'on soit à la tête d'un commissariat et qu'on ait ce grade-là, c'est de l'ordre des choses, quoi.
Être une voix, une image, vous demande de quelle responsabilité, quel sacrifice ?
Ah, le sacrifice, alors je ne sais pas si c'est un sacrifice, parce que qui dit sacrifice, ça veut dire qu'un sacrifice, on n'est pas obligé de le faire. Moi, je pense que dans des circonscriptions difficiles comme celles que l'on peut avoir, d'abord, il faut être à l'écoute des policiers. Et en tout cas, moi, j'essaie de le faire sur Roubaix, vraiment. Parce qu'il est notre responsabilité à nous d'encadrer les jeunes policiers. Encadrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, il faut se montrer ferme. Quand on a affaire à des jeunes de 20 ans, 22 ans, parfois, il faut se montrer ferme pour faire en sorte de les protéger. Et c'est ça qui est important. Moi, tous les jours, j'essaie en tout cas de prendre des dispositions pour que les policiers soient dans le meilleur état d'esprit. C'est la seule chose, c'est la seule préoccupation, faire en sorte que les policiers soient dans un très bon état d'esprit, parce que quand ils partent en intervention, quand ils font des enquêtes, ils se trouvent confrontés à l'horreur. Je pense que c'est le terme. Ils sont confrontés à l'horreur. Donc, ce n'est pas un sacrifice. Je pense que c'est une conduite que l'on doit avoir. Ensuite, concernant la population, si on se sent concerné, il faut être disponible. Se sentir concerné, ça veut dire faire en sorte que les gens puissent vivre dans de bonnes conditions. C'est ça ce que ça signifie.
Pour vous, être flic, qu'est-ce que c'est ?
Être flic, je ne sais pas si j'utilise ce terme, mais par rapport à cette carrière, quand on utilise cette expression, ça reflète quoi ? Ça reflète un grand flic que j'ai connu et qui va peut-être se reconnaître, parce que je vais donner son nom. Il s'appelle le commissaire Joël Speck. Il y en a d'autres hein, que je peux citer, ils se reconnaîtront. Le commandant de police Pierre Auverdin. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les passer en revue. Ce sont des personnes qui sont animées par cette volonté de poursuivre les délinquants et surtout de les confondre avec des techniques d'investigation, une connaissance du terrain qui les honore. Le commissaire Speck ou le commandant Auverdin, ce sont des policiers qui ont traité les plus grosses affaires dans le département. Et quand on les voit, on ne peut. Ils inspirent le respect. Et c'est ça, je pense, être flic, inspirer le respect. Mais je voulais terminer également par inspirer le respect, c'est également quand on est à Roubaix, quand on a 25 ans, qu'on se retrouve. On sort de l'école et on se retrouve dans des scènes de crimes horribles, comme celles que je vous ai décrites, et ben moi, ils ont mon respect aussi. Voilà ce que c'est qu'être flic.
Merci, commissaire.
Merci.
Vous quittez les ondes d'être flic. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.